Heureux aujourd'hui de commencer cette nouvelle série « En chemin vers la résurrection ». Alors qu'on est dans le mois de Pâques, où on va célébrer à la fin du mois la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Même si nous, ici à la Prairie, comme dans toutes les églises du monde, on prêche à chaque semaine la bonne nouvelle de l'Évangile et donc la croix et la résurrection. Il y a un côté où je crois qu'il faut se rappeler et aussi annoncer à ceux qui ne le savent pas que la résurrection de Jésus, oui, est un événement historique qui a pris place il y a plus de 2000 ans maintenant, mais qui n'est pas un événement dépassé. La résurrection est quelque chose que nous devons vivre et marcher dans ce chemin de résurrection chaque jour de notre vie, que nous ayons rencontré Jésus ou que nous sommes en chemin en ce moment. Parce qu'il y a vraiment un côté où cette résurrection n'est pas seulement quelque chose de dépassé, au contraire, elle est encore plus qu'actuelle, plus actuelle que n'importe quoi aujourd'hui, elle est plus importante que tout parce que le chemin de la résurrection est celui qui nous fait rencontrer la vie. Et dans nos vies, nous avons tous besoin de résurrection, dans un domaine ou un autre. Nous avons tous besoin d'espoir, mais la bonne nouvelle de l'Évangile nous donne plus que l'espoir, elle nous donne l'assurance que dans le chemin de vie que nous choisissons en marchant dans la résurrection et la vie, peu importe les circonstances, nous serons toujours plus que vainqueurs parce que Christ a vaincu le mal, le péché, même la mort. C'est pour ça que même cette vie, nous pouvons avancer avec un sourire, peu importe les situations, parce que nous savons que même quand cette vie se terminera, la vie pour l'éternité sera avec le Christ ressuscité, une gloire perpétuelle sans aucune maladie, sans aucun mal, sans aucune souffrance. Et ça, c'est l'assurance que nous avons. C'est pour ça que nous pouvons proclamer à chaque dimanche, peu importe les crises économiques, peu importe l'inflation, peu importe les mauvaises nouvelles, il y a toujours la bonne nouvelle qui est pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu aujourd'hui? Parce que c'est une bonne nouvelle encore pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas l'habitude de frapper des mains, bienvenue à l'Église. Ici, on célèbre de manière physique ce que Dieu fait. Tu loueras l'Éternel corps, âme et esprit. Donc, on va le faire ensemble. Le titre de la série, justement, c'est « En chemin vers la résurrection ». Et alors que j'ai entendu ce titre de la série, tout de suite, j'ai pensé au message que j'allais vous prêcher aujourd'hui. C'est un message qui, en chemin vers la résurrection, certains disciples, malheureusement, sont partis complètement à l'ouest, complètement à l'opposé du chemin où ils devaient aller. Et trop souvent dans nos vies, alors qu'on est bien intentionné, parfois on marche complètement loin du chemin où nous devrions être. Quand tu choisis un chemin qui n'est pas le bon, il y avait vraiment un côté pour moi où ça m'arrive tellement. Et même la grâce de Dieu nous rejoint dans ce chemin-là. Même si nous sommes en train de faire un détour dans la vie en ce moment, ou peut-être dans ta foi, ou peut-être même en ce moment, tu ne sais même pas où tu marches, mais tu continues d'avancer juste parce que tu te dis, regarde, il faut avancer, j'avance. Peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin, mais laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a l'espoir que Jésus nous donne, que peu importe où tu es en ce moment, Dieu peut te rejoindre là où tu es. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Quand Dieu te laisse t'éloigner ». Avez-vous déjà entendu l'expression « Tous les chemins mènent à Rome » C'est une belle expression, mais ce n'est pas vrai partout. Si tu vas dans un aéroport, tu prends n'importe quel avion, tu te retrouveras à la bonne destination. Pas du tout. Même des fois, l'avion que tu dois prendre pour avoir la bonne destination ne t'amène pas à la bonne destination. Combien ont déjà été frustrés par ça? Tu veux te rendre à Cancun, puis tu t'arrêtes c'est où? Je ne sais même plus. Tu sais, quand tu veux vraiment être à une destination et puis qu'il t'emmène ailleurs, nous avons un petit problème. Même celui qui doit, avec assurance que tu as payé cher, t'amener à la bonne destination, il ne t'amène pas à la bonne destination. Le point, c'est que dans ce texte qu'on va lire en ce moment, il y a vraiment un côté où Dieu même montre un certain sarcasme. Quand Dieu nous laisse t'éloigner, parce que tous les chemins que nous prenons, ce n'est pas parce que tu es bien intentionné que tu es sur le bon chemin. Il y a des gens qui combattent et qui poursuivent des choses qui en fait sont sans valeur. Cette semaine, j'ai ri parce que j'ai vu une photo, il y a une photo d'une vidéo que j'ai vue cette semaine qui a fait le buzz un peu sur Internet. C'est quelqu'un qui, dans une pizzeria, a acheté une slice de pizza et alors qu'il est là, il y a une caméra de sécurité qui est en train de le filmer. Et puis, ce monsieur-là a acheté sans doute une part de pizza qui vaut peut-être 8 $. Et il a sur sa table un petit pot de parmesan qui doit au maximum coûter 2 $. Et alors qu'il est en train de saupoudrer sa pizza, il regarde à droite, à gauche, et rapidement, subtilement, il le met dans sa poche. Il est en train de voler le parmesan. Puis on se dit, OK, t'achètes ta part 8 $, puis tu prends et tu voles un parmesan à 2 $. Vous êtes d'accord que ça ne fait pas trop de sens, OK? Mais le point, c'est que pourquoi j'ai vu cette vidéo, c'est parce qu'elle a fait tellement le buzz, parce que le restaurateur a pris cette vidéo-là et l'a mise sur les réseaux sociaux pour dire « Il faut retrouver ce voleur-là. Il faut retrouver celui qui m'a volé. Et là, tous les réseaux sociaux ont commencé à buzzer un peu en disant, il faut le retrouver, il faut le retrouver. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est posé la question. Est-ce que réellement, on est en train de chercher un gars wanted dans le monde entier pour un 2$ de parmesan d'une pizzeria? Et là, on se disait, c'est quoi le plus loufoque dans l'affaire? Celui qui vole le parmesan ou celui qui demande au monde entier, retrouvez-moi celui qui m'a volé mon 2$ de parmesan? Puis là, on était comme, on ne sait pas quel chemin. En fait, les deux, on dirait qu'ils sont comme en train de se perdre. Est-ce que vous êtes d'accord? Des fois, parce que tu te dis, oh, j'ai été offensé, tu es en train de faire un chemin en ce moment que tu es en train de toi-même de perdre ta vie, ton témoignage. Et des fois, on en rit. Mais sur quel chemin en ce moment tu es? Quel est le combat de ta vie en ce moment? Qu'est-ce que tu es en train d'être animé par une passion qui, en fait, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est bien placée? Est-ce que ton cœur en ce moment est en train d'être enflammé sur quelque chose qui est en train de te détruire? Ou est-ce que ton cœur est en train d'être enflammé par la seule parole qui, elle, peut donner un feu qui ne se consume pas? Parce que la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que l'amour de Jésus pour toi, parce que le plan de Dieu pour toi est infini. Le plan de Dieu pour toi est que tu sortes la tête de là où tu es en ce moment, en train d'être complètement abasourdi, en train d'être complètement dans tes problèmes, et que tu commences à voir que le plan de Dieu pour toi, c'est quelque chose que tu avances dans un bon chemin. Le chemin de la résurrection, c'est que peu importe où tu en es mort en ce moment dans ta vie, dans ta relation, dans ton plan de carrière, peu importe, Dieu peut te donner la vie. Et peu importe le chemin où tu es en train de t'éloigner, Dieu peut-être te laisse t'éloigner, mais à un moment donné, réellement, il va te rejoindre et il va te surprendre. Est-ce que je peux entendre un amen? On va lire le texte dans Luc, justement, chapitre 24. C'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 36. C'est un grand texte, mais tellement important. Voici le contexte de Luc 24. Jésus vient d'être crucifié. Il a été mis à mort après 33 ans de vie, après 3 ans de ministère, après avoir pris son équipe et fait des disciples, des gens qui allaient transformer l'humanité jusqu'à nous aujourd'hui. Alors qu'ils sont là, les disciples ont vu Jésus être crucifié. Et 3 jours après, ils ne l'ont toujours pas vu ressusciter. Alors il y a une totale déception qui est là. Certains, même quand Jésus parlait de sa résurrection, ils ne le croyaient pas forcément. Donc en ce moment, c'est deux des disciples, qu'on les appelle les disciples d'Emmaüs, qui s'en vont vers un chemin complètement loin de Jérusalem. Ils devaient se rendre à Jérusalem parce que Jésus avait dit « Attendez à Jérusalem, soyez là. L'objectif, c'est que tu sois dans la bonne route de Jérusalem. » Mais eux partent complètement. Ils partent de Jérusalem loin et on va le lire ensemble. Êtes-vous prêts pour la parole? Le même jour, le jour de la résurrection, le dimanche, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à 12 kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements, pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions. Jésus lui-même, ressuscité, s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne savent pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc » demanda-t-il. Jésus aimait le sarcasme. Quoi donc, demanda-t-il, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour se faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. » Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir aller plus loin, mais il le retint avec une vive instance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure, et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons, ceux qui étaient restés à Jérusalem. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Il s'est montré à Simon. Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils avaient partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Un texte vraiment puissant où le jour de la résurrection, la plus belle et grande des nouvelles que l'humanité n'ait jamais portée, le Christ s'est donné pour sauver l'humanité, pour réconcilier. Il est ressuscité pour nous donner un espoir que notre vie ne s'arrêtera pas seulement ici, elle continuera pour l'éternité. Mais ceux de la team de Jésus sont vraiment en train de faire un gros détour loin de ce que Jésus avait prévu pour eux. Quand Dieu te laisse t'éloigner, la première vérité que je veux qu'on tire de ce texte, c'est que Dieu n'est jamais très loin. Dieu n'est jamais très loin de là où tu es, même si tu es en train de faire un gros détour dans ta vie en ce moment. C'est ça qui est fort avec la parole de Dieu, c'est qu'elle nous dit que Dieu, son bras n'est pas trop court. Peu importe où tu es, peu importe où tu vas en ce moment. Les psaumes le disent comme ça. Si je vais au ciel, tu y es. Si je vais sous la terre, partout dans les océans, tu y es. Tu pourrais même quitter cette terre et puis aller avec Elon sur Mars. Dieu pourrait t'y trouver quand même. Dieu est quand même, il est, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire, ce qui fait qu'il est au-dessus de tout. C'est pour ça que peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment, même si tu es au plus creux de ta vie et que tu dis à personne, rien ni personne ne peut rien faire pour moi en ce moment, faux! Dieu n'est jamais trop loin de ta situation. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, aucune ombre n'est trop sombre, aucune montagne trop élevée, aucun mur ne peut résister. Dieu est tellement puissant que là où tu es dans ton chaos, dans ton tombeau, dans la mort, là où tu es, peu importe ta situation, Dieu n'est jamais très loin. Et si tu es ici, tu es vraiment à la bonne place. Parce qu'au travers de l'Église, Dieu se manifeste. Nous sommes le corps. L'Église est appelée non seulement l'épouse de Christ, mais le corps de Christ. C'est-à-dire que par l'Église unie ensemble, l'Église non pas seulement dans cette Église locale ici, pas seulement Nouvelle Vie au Québec, toutes les Églises locales de dans toute la planète, c'est appelé le corps de Christ. Ce qui fait que si en ce moment, tu as besoin que Jésus, que Dieu te reprenne dans ses bras, bienvenue à l'Église. L'Église sont les bras de Dieu. Si tu as envie, en ce moment, si tu as besoin de voir l'espoir et le sourire de Dieu, bienvenue, l'Église est là pour démontrer son sourire. Pas toujours de manière parfaite, en fait, mais quand même de manière puissante. Parce que Dieu se sert de son Église pour annoncer son amour, pour soutenir, pour encourager, pour confronter, pour montrer la vérité et pour soutenir celui qui est faible. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui sont en ce moment se sentent faibles? Mais l'Église est là, Dieu t'a amené ici pour que tu sois à la bonne place. Dieu n'est jamais très loin. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Ce qui est fort, c'est que Jérusalem est ici, ils doivent être ici avec les 12 disciples. Il y a quelque chose de fort, ils doivent être dans ce lieu-là. Puis ils sont en train de prendre un chemin qui est complètement loin en disant, c'est là que Jésus nous a demandé d'être, c'est là où les autres sont, c'est là où l'unité, c'est là où la foi, c'est là où on peut pleurer ensemble parce qu'on comprend tout ce qui nous est arrivé. Mais non, nous on quitte. Et ils partent dans un chemin qui est à 12 kilomètres de là où ils doivent être. 12 kilomètres, c'est long. Ils n'avaient pas de... Mais le point, c'est que Jésus lui-même s'est approché d'eux pour pouvoir marcher avec eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ce qui fait que Jésus marchait avec eux alors que Jésus était ressuscité. Il n'avait pas de temps à perdre. Il était sur terre encore 40 jours pour pouvoir annoncer toutes ces choses et envoyer ses disciples dans la grande moisson, continuer, leur démontrer. Mais Jésus a pris le temps avec des gens frustrés, des gens déçus, des gens qui doutaient. On pourrait dire des gens qui ont abandonné. Abandonné la maison, t'as abandonné la famille de Dieu, puis t'es en train de marcher 12 kilomètres. On perd du temps. On perd du temps à marcher, puis gars. En train de parler le raisonnement, la réflexion. Mais Jésus s'approcha d'eux. Peu importe où tu en es en ce moment, même si t'es en train toi-même d'avoir des doutes sur l'existence de Dieu, même si toi en ce moment tu te dis « Ah, j'ai trop essayé, je m'en vais », Jésus s'approche encore et aujourd'hui de toi. Peu importe le chemin que tu as pris, même si tu es en train de t'éloigner, la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne te lâche pas. Il est en train de s'éloigner avec toi. Jésus n'a pas eu peur de faire le détour avec ses disciples de 12 kilomètres, alors que les autres l'attendaient. Ça me fait rappeler que Jésus, quand il donne sa parabole, il dit il y a des brebis, puis il y en a 99 qui sont à la bonne place, puis il y en a une qui est en train de partir. Qu'est-ce que fait le bon berger? Il laisse les 99 et il part. C'est comme si que le pasteur, le dimanche matin, ça commence à 9h, mais il arrive à 9h10 parce qu'il y avait une personne avec qui il était en train de parler là-bas. Vous diriez, OK, c'est quoi là? On est où ici? On est où? On essaierait d'avoir une équipe spirituelle assez large pour pouvoir en faire qu'on soit partout. Mais en ce moment-ci, les disciples étaient en train d'attendre Jésus, en train de prier, en train de dire, peut-être en train de pleurer eux aussi. Mais les deux qui étaient en train de prendre un chemin pour s'en aller loin, à Emmaüs, loin, Jésus les accompagna. Il marcha avec eux et les questionna. Ce qui est fort pour moi, c'est que Jésus est réellement intéressé à entendre leur cœur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aurais tout de suite dit, vous ne connaissez pas? Les gars, je ne vous avais pas dit d'être là-bas? Vous faites quoi? Vous marchez pour aller où? Vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas reconnu? Vous n'avez pas... Guys, on réveille! Jésus, il a compassion, complètement. Eux, ils sont vraiment dans un flou. Ils échangeaient leurs réflexions et leurs raisonnements. Le problème, des fois, c'est que tellement que tu raisonnes et que tu réfléchis, tu es en train de prendre un chemin qui t'emmène tellement loin de là où tu dois être. Il y en a ici, vraiment. En fait, on a tous à devoir faire ça. Que tu sois le plus cartésien, le plus scientifique ou la personne qui réfléchit avec un raisonnement. À un moment donné, il va juste falloir que tu te dises, est-ce que la parole de Dieu et ma foi en la bonté de Dieu est suffisante? Ou est-ce qu'il faut absolument que toutes mes réflexions, tous mes raisonnements, toute ma logique humaine, faillible, imparfaite, fassent du sens pour que je croie en Dieu surnaturel et surpuissant? À un moment donné, on a tous à faire cet exercice-là. Est-ce que tu te crois tellement intelligent que tu te dis « je dois tout comprendre sur Dieu, sa volonté, ce qui est expliqué, ce qui restera un mystère jusqu'à la fin de cette vie ici » Est-ce qu'en ce moment, tu as besoin de faire diminuer tes raisonnements et ta logique? Je ne suis pas en train de dire que l'Évangile, c'est juste pour des personnes simples et qui ne doivent pas réfléchir. Au contraire, lisez la parole, vous allez voir combien d'érudits, combien Dieu nous pousse à la sagesse, à l'intelligence, au raisonnement. Mais au raisonnement qui se confère à la parole de Dieu. C'est pour ça que notre foi et notre raisonnement ne doivent jamais entrer en contradiction. Et si ça rentre en contradiction, je te le dis réellement, ne perds pas des années, ne perds pas du temps à essayer de faire en sorte que ton raisonnement va comprendre complètement tout ce qui est Dieu. Dieu est Dieu. Ses pensées sont passées, nos pensées. Même les choses qui ne seront pas expliquées ici sur cette terre, il va falloir qu'on ait la foi pour croire que notre Dieu est tellement bon que peu importe s'il m'explique pourquoi ou pas, je lui ferai confiance. Et je vais vous le dire, ça fait une vie que je fais confiance à Dieu. À chaque fois que j'ai essayé de faire confiance en ma propre vie, mon raisonnement, mon intelligence, je me suis toujours pris un mur. À chaque fois que j'ai fait confiance à Dieu, il m'a fait traverser les murs. Donc, je crois réellement, et ne vous basez pas seulement sur mon expérience, mais sur la parole de Dieu. Faites-lui confiance en tout et en toute chose. Les raisonnements, les réflexions sont bons, mais poussés à l'extrême, à un moment donné, ça peut nous garder dans un débat toute ta vie où tu es en train de débattre, puis tu t'en vas tellement loin que là où tu devais être. Mais Jésus les écoute. C'est pour ça que Jésus n'est pas en train de te juger ou de te condamner en ce moment. Il dit juste, dis-moi réellement ton cœur. Et alors qu'il est en train de faire un détour avec eux, Dieu les laisse s'éloigner. Il s'approche d'eux, il les questionne d'une manière sarcastique. Tu sais pas, ce qui est arrivé? Non, dis-moi. Apprends-moi, Cléopas. Vas-y. Explique-moi ta grande science. Mais Jésus marche avec eux. Il les questionne, il est intéressé, il veut les entendre. Et il les écoute attentivement. Moi, je les aurais tout de suite arrêtés. Je ne sais pas pour vous, là, mais ouais, on pensait que c'était le libérateur d'Israël, mais on est déçus. Moi, j'aurais tout de suite dit, attention, ne dis pas ces paroles-là. Ce n'est pas les paroles qui viennent de Dieu. Non, confesse que Jésus. Jésus, il les laisse aller dans leur raisonnement. Il a réellement ce qu'on appelle une écoute active. Tous les maris en prennent... Il faut écouter. Écouter, quelqu'un a dit, c'est pas juste attendre son tour pour parler. Tu sais, t'as déjà ton argument. OK, finis ta phrase. Je parle à moi-même. Mon épouse, elle est en train de rire en ce moment, en train de dire, prêche, prédicateur, mais vie... C'est difficile, l'écoute active. Surtout quand t'as souvent beaucoup de choses à dire. Mais Jésus, là, même s'il avait les paroles de la vie, s'il était lui-même le chemin, la vérité, la vie, il a écouté quand même l'autre personne. Dieu ne veut pas juste t'arrêter en disant « Non, arrête, il faut !» Non, Dieu te dit « Déverse tout ce que tu as. S'il y a une personne qui peut réellement écouter toute ta frustration, ta déception, tes doutes, tes blessures, le pourquoi tu dis « j'ai envie de quitter », le pourquoi je suis découragé, c'est vraiment Dieu. Regardez la Bible, il y a tellement de passages de lamentation où même l'homme selon le cœur de Dieu, David, est en train de dire « mais je ne comprends même pas ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ?» La personne, la première en fait, qui doit entendre ça, c'est bien Dieu. C'est bien dans le lieu de la prière où tu vas dans ton auto et puis tu commences à pleurer en disant « je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment ». Que la première personne soit Dieu, parce que Jésus nous montre en ce moment que même dans un moment où tu t'éloignes de lui, il veut quand même t'entendre, il veut quand même entendre ton cœur. Parce que lui a seul la réponse à tes problèmes. La réponse à tes questions est en Jésus. Il fait un détour avec toi. Peu importe le chemin sur lequel tu marches, Dieu n'est pas loin. Il y a un article que j'ai lu il y a quelques années de deux sœurs orphelines, il y a une photo qui arrive en arrière, deux sœurs orphelines nées en Corée du Sud qui ont été séparées lorsqu'elles étaient enfants. Après avoir été adoptées par des familles différentes et ayant immigré aux États-Unis, elles se sont retrouvées par hasard 40 ans après en travaillant sur le même étage et partageant le même quart de travail de l'hôpital de Sarasota en Floride. Elles ont été engagées à seulement 2 mois d'intervalle. C'est lorsqu'une discussion en tant que simple collègue qu'elles se rendent compte de leurs étranges similitudes. Holly, l'aînée des deux sœurs, dit qu'elle priait Dieu tous les jours pour retrouver sa sœur sans avoir aucune idée d'où elle pouvait être. Quand tu penses être éloigné de Dieu, Dieu n'est jamais très loin et à un moment donné, il va se révéler à toi. Et aujourd'hui, que ce soit un dimanche où Dieu se révèle à toi, peu importe le chemin que tu es en train de prendre, est-ce qu'on peut encourager quelqu'un qui est en train peut-être de quitter la bonne route, mais Dieu te dit non, le chemin de la résurrection est pour toi ici aujourd'hui. Jésus fait comme laisse les 99 autres pour aller en chercher deux qui sont en train d'être complètement blessés, déroutés, troublés. Mais il le fait et il les ramène par sa parole. La deuxième vérité, c'est quand Dieu te laisse t'éloigner, Dieu te ramène à sa parole. C'est tellement fort parce que même encore dans ce texte, alors que je l'ai lu, je l'ai étudié, je l'ai prêché, cette vérité, je ne l'avais jamais vue comme avant. Jésus ne se révèle pas à eux en tant que Jésus le ressuscité. Vous connaissez Undercover Boss, le patron incognito, une émission de télé-réalité où le grand patron de l'entreprise se déguise et puis vient comme un simple employé ou un stagiaire et puis il vit quelques semaines avec eux jusqu'au jour où du grand dévoilement, il enlève la fausse moustache qu'on avait déjà tous compris que c'était le... Bon, bref, je ne sais pas si c'est réellement vrai, mais en tout cas, le but du concept, c'est de dire « Oh, vous n'aviez pas vu que c'était moi, mais c'était moi !» Et là, soit il vire des employés qui sont vraiment mauvais, soit il encourage et il célèbre les employés qui sont bons. Combien... Non, je ne vais pas poser la question. Combien seraient virés ici? Non. Je prie que Dieu vous élève un jour et que vous dites, hey, t'es vraiment un employé que j'avais jamais vu ta valeur. Et toi, là, avec tes valeurs, ton intégrité, tu t'essayes pas de diviser, critiquer. T'essayes vraiment d'amener une cohésion. T'honores toujours ton patron, même si c'est pas forcément le meilleur. Est-ce qu'on peut encourager chaque employé qui est ici, qui doit faire dealer entre des tensions? Mais Dieu nous appelle à être la lumière aussi au travail. Undercover Boss, c'est que Dieu est avec toi au travail. Même si toi, tu le vois pas toujours, il est là, il te regarde. Donc, sois le meilleur employé du mois. Amen. C'est tous les printemps qui disent « Amen » en ce moment. Amen. Mais après que Jésus écoute pendant 12 kilomètres, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour que Jésus écoute leurs doléances et puis marche avec eux. Mais à un moment donné, ce qui est fort, c'est que Jésus, alors qu'il pourrait réellement seulement lui dire « Hey, c'est moi, regardez les mains, regardez les cicatrices », comme il va le faire quelques temps après avec tous les disciples, Jésus les ramène à la vérité par la parole. Parce que Jésus ne se révèle pas en tant que Christ ressuscité, parce que j'ai l'impression que ce serait trop facile. Ils verraient le Jésus surnaturel, mais ils n'auraient peut-être pas compris sa mission. Pendant qu'ils marchent, Jésus est en train de leur dire, regardez, est-ce que les prophètes ne le disaient pas? Est-ce que de Moïse jusqu'à, en fait, de la loi jusqu'aux prophètes, Jésus a dû faire une prédication incroyablement intéressante. Il est passé par toute la Torah. Il avait du temps, il marchait avec eux. Mais en leur expliquant, voici ce que Moïse et le buisson ardent, il ne se consumait pas. Et l'agneau qui était mis sur les linteaux et les poteaux, mais représentait pas la croix, vous pensez? Et il était en train de leur faire une prédication que j'aurais tellement voulu entendre et écouter. Mais en leur prêchant la parole de Dieu, la parole que nous connaissons aujourd'hui en tant que Bible, Jésus lui-même était en train de citer les Écritures pour leur montrer que tout pointe vers la croix. La croix de Jésus, la croix et la résurrection étaient depuis l'éternité, entre guillemets, déjà montrés comme voici le plan de Dieu pour la rédemption des péchés. Et Jésus leur annonce la bonne nouvelle en leur rappelant la parole. En ce moment, peu importe tes raisonnements, ta réflexion, peu importe tes blessures, ta logique, il faut que tes yeux soient dans la parole parce que Dieu se révèle encore à toi à travers la parole. Et j'arrêterai jamais de prêcher cette bonne nouvelle parce que si je ne fais juste que vous donnez le Jésus, que vous dites « Waouh, ok, j'aimerais celui-là le rencontrer », mais que tu ne comprends pas réellement sa mission parce qu'il a donné sa vie pour que tes péchés puissent être pris. Si tu vois juste le beau Jésus qui est bon et qui donne la grâce sans comprendre qu'il a payé de sa vie à la croix, qu'il est mort sur des souffrances que tu n'as même plus à payer aujourd'hui, mais que tu dois revenir repentant, tu n'auras pas compris sa mission. Tu auras accepté le Jésus. Waouh, c'est tellement incroyable! Mais tu n'auras pas compris sa mission. Jésus, à ce moment-là, explique sa mission pour rappeler à ses disciples que peu importe la peine, peu importe le coût que ça a payé au Fils de Dieu, Jésus est quand même là et il a été la bonne nouvelle dès le commencement du monde. Je prie que ici, des gens ne marchent pas avec Jésus chaque semaine, viennent le rencontrer. High five, Jésus. Hey, je te donne la louange, je te donne mon dimanche, je te donne mon 2 heures par dimanche, et puis je suis vraiment... Mais que tu n'as pas compris sa mission. Que tu vis dans un chemin qui est complètement... En fait, Jésus marche avec eux combien de temps? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, eux l'invitent dans leur maison. Combien de temps tu vas marcher avec Jésus, à côté de Jésus, en entendant Jésus, sans réellement comprendre ce qu'il est pour toi? Si en ce moment, il est juste ton Seigneur parce qu'il a des bons conseils pour toi, et puis il me sauve toujours un petit peu, mais que tu n'as pas vraiment donné ta vie en disant « je veux me consacrer à lui, je veux arrêter de vivre ici et je veux arrêter de vivre ici. Si il me dit d'être là-bas, je ne veux pas aller là-bas. » Même s'il t'accompagne, quand tu t'éloignes, il veut quand même te ramener dans le bon chemin parce que c'est toi qui perds du temps, pas lui. Que vraiment, cette vérité pour moi, c'est comme si en ce moment, tes yeux, ta foi n'est pas enflammée par cette parole. En fait, ce n'est pas la vue de Jésus qui a enflammé leur cœur. C'est lorsque Jésus prêchait la parole, il rappelait à leur cœur une vérité que le Saint-Esprit était en train d'enflammer leur cœur. De dire, wow, quel espoir, que c'est vrai, il y a quelque chose de tellement, que Dieu nous aime tellement qu'il a donné tout ce qui lui coûtait, tout ce qui était le plus précieux à Dieu, il nous l'a donné. Il y a comme quelque chose, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait brûler notre cœur. Pas par une superficialité, une religion motivationnelle. Non, c'est seulement par la bonne nouvelle de l'Évangile qui est proclamée par la parole. C'est pour ça que si tu as besoin en ce moment que ta vie reprenne un feu, c'est pas juste que tu as besoin de plus de prédication. Non, tu as besoin de plus lire la parole parce que c'est elle qui ramène le cœur à consumer, à être complètement enflammé sans se consumer, comme le buisson. Le buisson, Dieu s'est révélé en étant un feu qui ne consumait pas. Je prie que ton cœur, ta foi, ta passion pour Dieu soient comme ce buisson, en disant, parce que je trouve l'oxygène, le feu en moi de la passion pour Christ ne s'éteint pas et il continue à enflammer. Non seulement moi, mes enfants, ma famille, mes collègues, ma vie doit être enflammée de la passion pour Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui, par sa parole, enflamme nos cœurs? Au plus t'es proche de nous, c'est ça qu'ils lui ont dit. Non, quitte pas, quitte pas. Jésus continuait son chemin. Tu sais pourquoi? Jésus ne force jamais quelqu'un. Il marche avec toi autant de kilomètres qu'il faut. Puis Jésus, à un moment donné, il dit, si vous ne m'invitez pas chez vous, je vais continuer mon chemin. Jésus sembla aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas te forcer à entrer dans ton cœur. C'est pour ça que depuis ta naissance, il t'envoie des messages d'amour, mais si tu ne lui dis pas, non, reste avec nous. Il ne l'avait même pas encore reconnu. Mais il disait, il y a quelque chose en toi quand tu nous parles. Notre cœur, il brûle. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens ici. Il y a des gens, même pas chrétiens, qui reviennent chaque dimanche en disant, c'est bizarre. Il y a quelque chose que je ressens à chaque fois que je viens dans ce... Ils n'ont même pas encore compris et réalisé qui est Jésus. Mais il y a quelque chose dans leur cœur parce que c'est le Saint-Esprit qui veut que chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard soit sauvé. C'est pour ça qu'il étend des cordages d'amour en disant, si ce n'est pas cette semaine, ça sera encore la semaine prochaine. Chaque jour, je veux faire brûler ton cœur. Mais Jésus continue son chemin. Il ne veut jamais forcer l'entrée de ta maison. Par contre, ses disciples-là ont dit non, on veut. Puis ils ont trouvé une fausse raison. Non, regarde, il commence à faire nuit, viens chez nous. Non, c'est eux, leur cœur brûlait tellement qu'ils ne voulaient pas. En fait, ils disaient, quand tu es proche de nous, nos cœurs brûlent et nos peurs se calment. Nos blessures commencent à devenir comme guéries parce que l'espoir et la vie que tu nous prêches, il y a quelque chose qui est là. Donc, il voulait qu'il soit proche de lui. que la parole soit proche de ton cœur. Au plus tu comprends que Dieu est grand dans ta vie, au plus tes peurs diminuent. Au plus tes incompréhensions, tes raisonnements et tes réflexions, même si elles sont naturelles et humaines, Dieu nous a créés comme ça, des êtres intelligents. Mais que mon intelligence humaine ne soit jamais au-dessus de la parole et de la foi en Jésus-Christ seulement. L'évangile seul est suffisant à moi. Que Jésus ne soit pas seulement le bon enseignant pour toi aujourd'hui. Le Dieu de grâce qui marche avec moi. Le leader compatissant, le faiseur de miracles. Le 911, que j'ai besoin de lui. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tout ça. Mais il est plus que ça. Il est le sauveur et il est ressuscité pour te faire marcher dans ce chemin de résurrection. La révélation a déjà été donnée. C'est pour ça que Jésus est revenu à cette révélation-là. C'est pour ça que je crois qu'il y a vraiment un côté où nous devons, en tant qu'Église, écouter les personnes et comprendre leur peine. On ne doit pas être des donneurs de leçons dès que la personne commence à parler. « Non, 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 tu n'as pas le droit de dire ça. Non, il ne faut pas que tu... » Non, écoute la personne. Écoute ses blessures, écoute ses ressentiments. Mais à un moment donné, il va falloir que toi, tu commences à parler comme Jésus. Il n'a pas fait que écouter. À un moment donné, il a annoncé la bonne nouvelle. Je ne veux pas juste écouter ton problème. Je vais te donner la solution qui se trouve en Jésus. Et alors qu'il était là, ce qui est fort, parce que le dernier point est que Dieu se révèle dans la communion. Jésus est en train de marcher avec eux, il leur annonce la bonne nouvelle, leur cœur brûle, il l'invite chez eux. Et Jésus, invité chez eux, prend le lead dans leur maison. Ce qui est faux, c'est que les disciples disent « Non, viens à la maison ». Ils arrivent et une fois rentrés, Jésus s'assoit à table et commence à prendre le pain et leur donne. Normalement, c'est l'hôte de la maison qui fait ça. Quand tu invites quelqu'un chez toi, ce n'est pas l'autre qui prend qui fait une action de grâce. Mais Jésus, quand tu l'invites dans ton cœur, c'est lui qui prend le lead. Ouvre-lui la porte et il va faire le ménage. Il va t'amener exactement à la bonne place. Mais alors qu'il est là en train de donner la fraction du pain, ce qui rappelle la communion, dans la culture juive, à l'époque, il disait que quand il donnait du pain, il le donnait comme ça. Il le présentait avec les mains ouvertes comme ça. Et vous savez, c'est une interprétation, mais ça peut être très, très intéressant. Où ils ne l'ont pas reconnu jusqu'à temps qu'ils brisent le pain, ce qui leur a sans doute rappelé la dernière scène avec laquelle Jésus était. Mais quand ils ont donné le pain, sans doute qu'en prenant le pain, ils ont dû voir peut-être des trous dans les mains, parce que Jésus est ressuscité, mais il avait quand même la marque de la souffrance qu'il avait tenue à la croix. Il ne souffrait plus. Mais une fois qu'ils le reconnaissent, hop, déjà il avait disparu. Jésus, sa mission pour ces deux disciples-là avait été révélée. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite sur leur même? Ils se sont levés et ils sans doute ont couru vers Jérusalem. C'est là qu'ils nous avaient dit. Donc ils sont revenus à la bonne place. À la bonne place où? Là où toute la famille était réunie. Les disciples étaient là. Et quand ils arrivent, tout le monde dit, on a vu Christ ressuscité parce qu'il était en train de se révéler à chacun. Et il continuait de leur enseigner. Jésus apparaît et là se révèle à tous d'une manière, entre guillemets, on pourrait dire complète. Je crois que Jésus veut se révéler à nous par sa parole, veut faire brûler un cœur sur notre chemin, peu importe le chemin que tu es en train de prendre, si c'est un détour, si vraiment tu es dans la mauvaise voie. En fait, le chemin de la résurrection, c'est que peu importe le chemin que tu empruntes, Jésus peut t'arrêter maintenant et te remettre dans le bon chemin. Tu n'as pas besoin, toi, de revenir dans le bon chemin. Rencontre Jésus là où tu es, accepte-le comme tu es et lui, par sa vie, sa résurrection, te ramènera automatiquement vers le bon chemin. C'est pour ça qu'en ce moment, la religion, on n'est pas en train de te proposer une religion qui se dit « travaille fort, reviens vraiment dans le bon chemin ». Tu ne pourras pas. Il est la résurrection, la vie, le chemin, c'est lui. Ce qui fait que essaye pas de trouver le chemin hors de lui ou pour ton cœur a juste besoin d'être ouvert en disant « Seigneur, fais ta demeure en moi. Je t'invite ». Et alors qu'il veut se révéler à toi personnellement, parce que l'évangile est un évangile personnel, c'est-à-dire qu'à la croix, il nous a sauvés, nous tous, mais toi seul, tu peux l'accepter. Je ne peux pas l'accepter pour toi. Tes parents ne peuvent pas l'accepter pour toi. Tu ne peux pas l'accepter pour tes enfants. C'est pour ça que nous devons tous venir à lui individuellement. Mais nous ne sommes pas tous appelés, nous sommes en fait tous appelés à ne pas marcher seul et à marcher en communauté. Parce qu'il y a une révélation de Christ seul sur notre chemin, mais il nous ramène toujours à la maison, dans l'église. Je ne parle pas de cette église, je parle de l'église avec un grand E. L'église, quand tu marches avec, Jésus s'est révélé pleinement, complètement, d'une manière tellement, entre guillemets, on pourrait dire, la plus belle représentation de Jésus, le plus beau tableau qu'il a eu, c'est quand Jésus était venu avec les 12. À l'église le dimanche matin, je le dis, parce que nous ne faisons pas ici dans ce lieu un lieu où oh, c'est ici réellement la vraie place, là où Dieu se révèle. Non, mais je crois qu'il y a une révélation dans la famille de Dieu, dans l'église, lorsque nous venons, nous chantons, nous célébrons, lorsque nous entendons l'église louer, quand tu n'as plus de foi et que la foi de ton ami est dit « Waouh, il faut que je revienne à Dieu ». Il y a quelque chose, une révélation dans le corps de Christ qui est tellement fort parce que notre cœur brûle, mais là on voit une vision encore plus grande, encore plus belle, parce que le corps de Christ est réel quand il est ensemble, quand il est uni. C'est pour ça qu'on veut travailler autant à faire, pas en sorte qu'il y a de plus en plus de monde, non, que le monde soit uni. Je préfère une église de 500 bien unie qu'une église de 5000 désunie. Que nous soyons ici, peu importe le nombre, que nous soyons unis ensemble, portant les fardeaux les uns des autres, nous soucions les uns des autres, pas chacun fait son chemin et puis on se rencontre juste le dimanche et puis on repart. Non, que réellement, on puisse marcher ensemble. Parce que Dieu veut encore, aujourd'hui, Jésus veut être révélé à toi d'une manière encore plus grande dans l'Assemblée des Saints pour que chaque jour, dans notre chemin, nous puissions aller proclamer qu'il est le Dieu vrai, vivant, tout-puissant, que rien à lui n'est impossible. Et dans la communion, il y a une révélation tellement grande que Jésus a ramené ses disciples à Jérusalem. Il s'est montré à eux. Et à partir de ce moment-là, ils ont été complètement unis ensemble et envoyés jusqu'à nous aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait comprendre aujourd'hui, dans le début de cette série qui va nous emmener jusqu'à Pâques, que le chemin de la résurrection est un chemin qui nous amène la vie, qui nous amène non pas seulement l'espoir, mais l'assurance. C'est fort dans ce texte qui marque que les disciples disent à Jésus, on avait espéré qu'il serait le sauveur d'Israël. Moi, je ne veux pas juste espérer que Jésus est mon sauveur. Je veux avoir l'assurance que Jésus est mon sauveur. Que je le vois ou pas, que je le ressente ou pas, être en train de travailler dans ma vie, je veux savoir que l'assurance de mon salut est en celui qui a donné sa vie à la croix. Et c'est pour ça que je ne veux pas juste vivre sous un espoir, peut-être qu'il va un jour... Non, non, non. Ils avaient l'espoir, mais ils étaient déçus. Quant à l'assurance, tu n'es pas déçu. Parce que tu sais que si Christ est ma vie, même la mort un jour me sera un gain. Et peu importe ce qui peut se passer dans cette vie, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce que Jésus a donné sa vie par amour. Et quand le Christ ressuscité te regarde, il regarde avec un sourire en disant, tu peux toi aussi vivre dans cette résurrection. Si tu reviens à la maison, si tu reviens, si tu m'invites dans ton cœur, je peux faire un ménage, je peux complètement transformer ta vie, allumer un feu dans ton cœur et te ramener à la maison. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui est un bon Dieu qui nous amène sur ce chemin-là de résurrection? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? J'aimerais qu'on prie ensemble que dans cette nouvelle série dans laquelle on entre en ce moment, le chemin de la résurrection, ce ne soit pas juste on attend Pâques pour comprendre la croix et la résurrection. Qu'on puisse aujourd'hui le comprendre en disant, Seigneur, que dans les avenues de ma vie où je me suis éloigné de toi, où j'ai fait des détours et en ce moment, je me rends compte que je suis peut-être loin de toi. Même si moi, je me pense loin de toi, toi, tu n'es jamais loin de moi. Seigneur, viens me rencontrer dans mon chemin en ce moment. Un chemin de blessure, un chemin de doute, un chemin... Mais en fait, ce chemin-là, une fois que je te rencontre et que je t'accepte, il y a complètement quelque chose. Je ne m'en vais plus dans la mauvaise direction. Parce que je marche en toi, je te suis toi. Je reviens à la maison aujourd'hui. Je vais faire un appel à des gens aujourd'hui qui se disent, j'étais en train de faire un détour, j'étais en train de m'éloigner, je ne savais même plus où j'en étais. Mais aujourd'hui, je veux juste m'arrêter dans ce chemin-là et dire, Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Prends la place, prends le lead. Sois celui qui vient de me guider, sois celui qui vient me sauver, j'ai besoin de toi. Si c'est ton désir aujourd'hui, alors que toutes les têtes sont baissées, alors que les yeux sont fermés par respect, si c'est ton désir en disant, oui, Seigneur, moi, je veux la main qui m'est tendue, moi, je veux la prendre. Si c'est ton désir aujourd'hui, si tu dis, moi, j'ai besoin de revenir à la maison, j'ai besoin que Dieu revienne dans ma maison, fais juste lever ta main là où tu es. Et avec repentance, on priera pour toi. Merci. Merci pour les mains qui se lèvent. Qu'aujourd'hui, tu dises, oui, Seigneur, moi, j'ai besoin de toi en ce moment. Je veux te réaccepter une nouvelle fois. Je veux revenir dans ton plan. Je veux te laisser la place parce que si toi tu es ressuscité, il n'y a rien en moi qui est mort qui ne peut pas vivre. Seigneur, refais vivre un appel, refais vivre une destinée, refais vivre un mariage. Seigneur, je t'abandonne tout et je reviens à la maison. Seigneur, on te prie aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont besoin de résurrection. On te prie pour notre église, qu'elle continue, Seigneur Jésus, à être une église qui prêche l'assurance que Jésus est notre sauveur. Seigneur, fais en sorte que dans tout ce lieu aujourd'hui, tu puisses allumer un feu, Seigneur, faire brûler une foi nouvelle. Que peu importe le chemin sur lequel nous sommes, aujourd'hui, Seigneur, viens nous rediriger dans tes plans. Seigneur, nous voulons revenir à ta maison. Merci pour cette maison spirituelle ici. Fais en sorte qu'elle soit un lieu, Seigneur, de conviction, de repentance, de confession, de délivrance, de joie, d'espoir, d'assurance. Seigneur, que cette maison devienne, Seigneur, notre famille. Seigneur, que ceux qui se sentent seuls ici trouvent une famille. Que dans les groupes, que dans les dimanches, que dans l'implication, qu'en semaine, Seigneur, tu puisses faire vivre cette église pour que nous continuions d'être la lumière. Seigneur, viens effacer nos péchés, tu les as déjà faits à la croix. Nous te les déposons aujourd'hui, tout à toi. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton pardon. Merci parce que tu es le Dieu qui sauve encore aujourd'hui, qui relève et qui enflamme nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus que nous nous consacrons à toi. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut applaudir une dernière fois notre Dieu pour sa grâce et son amour? Est-ce qu'on peut se lever ensemble?